voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Diplômée en permaculture, Claire Verret développe un projet d'autonomie inspiré par les grands principes de la permaculture. C'est à mi-voix que je la rencontre dans son jardin.
Ici, on est à Lussot-sur-Loire, juste à côté de Tours. Il y a 1 hectare de terrain avec 0,5 hectare de forêt. Et on essaie de créer un bastion de la résilience en appliquant au maximum les principes de la permaculture. C'est-à-dire qu'on essaie d'être autonome en eau, en énergie, en nourriture, en bois, et puis en lien humain pour bâtir un monde qui puisse être un monde de paix, vu le contexte un petit peu international et local de changement climatique et de pression sur les ressources naturelles.
Et donc vous essayez de mettre ça en œuvre sur le terrain sur lequel on est. Donc on va peut-être faire un tour du lieu. Et on va commencer par là. Je vois il y a des arbres tout récemment plantés. Pourquoi ?
Alors ici, on a à la fois semé des arbres. Là, c'est pour ça que tu vois qu'on a mis des petites tiges de robinier avec des grosses épines. C'est pour que les merles ne viennent pas déloger les graines qu'on a mis hier. On a semé des caraganiers, des albizias et des sophoras hier, qui sont des arbustes fixateurs d'azote qui vont permettre de produire la fertilité sur ce terrain pour nourrir les arbres fruitiers qu'on va implanter cet hiver. L'idée, c'est de produire notre propre fertilité sur place, parce que l'agriculture aujourd'hui émet beaucoup de gaz à effet de serre notamment, du fait qu'elle importe beaucoup d'engrais, et des engrais azotés chimiques notamment. Pourquoi on fait des semis directs ? C'est pour que les arbres aient des racines plus profondes et soient plus résistants à la sécheresse, puisqu'on va vers des sécheresses de plus en plus fortes et de plus en plus longues.
Le mot fertilité, j'aimerais que tu reviennes sur cette notion de la fertilité. Par rapport à ce que tu observes aujourd'hui en France, dans les sols, et ce que tu essaies de recréer ici sur le terrain.
Alors ici on a de la chance, un fond de vallon c'est déjà assez fertile, mais en tant que permaculteur on a comme obligation soit de maintenir la fertilité, soit de l'améliorer, et en général on est sur des terrains plus dégradés que ça, donc on a besoin d'améliorer la fertilité. Et donc la fertilité, c'est aussi moi ce qui m'a attiré dans la permaculture, c'est créer l'abondance, c'est ce qui permet de nourrir les humains mais de nourrir aussi toute forme de vie. Donc la fertilité du sol, elle est essentielle. Ici c'est un sol argileux, on y met des animaux légers qui pâturent que quand il n'y a pas de la pluie abondante pour pas créer de tassement. Et on est très attentif aussi au cheminement sur le terrain pour pas tasser la terre. Mais effectivement, tout ce qu'on fait ici, chaque geste, c'est pour penser au vivant et à cette fertilité.
Tu utilisais le mot permaculteur, donc ça s'applique pas seulement à l'espace extérieur, c'est aussi l'espace intérieur, c'est tout un mode de vie qui va avec. Là, si je devais donner une dimension visuelle, je vois donc une bâtisse devant nous avec une cheminée qui fume. Donc on a vu du bois qui est produit pas trop loin d'ici. Là, sur ma gauche, j'ai des panneaux solaires, j'ai une serre ici. Donc peut-être un peu dresser la dimension visuelle et de ce qui fait qu'on puisse savoir qu'ici, on est dans un lieu où vivent des permaculteurs.
Oui, tout à fait. Alors cette maison, c'est une maison des années 70 qu'on a rénovée. On ne voulait pas construire neuf parce que la construction neuve, c'est un gros bilan carbone. Mais effectivement, cette maison que tu vois, elle est quelque part complètement neuve puisqu'on a habillé cette vieille maison en parpaing par des bottes de paille et un enduit chaud et terre. Et on a aussi refait les menuiseries avec des menuiseries bois, double ou triple vitrage. Tout le chauffage se fait au bois ainsi que le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Et l'été, on est sur du solaire thermique très très low-tech, ce qui fait qu'avec 4 terres par an de bois, on s'en sort et qu'on pourrait même s'en sortir avec moins. On produit le bois sur place, ce qui nous apprend aussi à bien gérer la forêt. Et ça, c'est très important en permaculture, en fait, c'est de gérer une ressource naturelle. Et pour bien apprendre à la gérer, il faut l'observer et interagir avec. Et ici, c'est ce qu'on fait tous les jours pour s'assurer qu'on prélève moins que le rythme de renouvellement de notre 0,5 hectare de forêt pour nos propres besoins. Ensuite, effectivement, tu parlais d'un petit peu du paysage. On a aussi des cuves à eau, donc des cuves en hauteur, mais aussi des cuves enterrées pour garantir les usages de l'eau dans la maison. L'eau de pluie, c'est la première eau qu'un permaculteur doit utiliser. L'eau des nappes phréatiques, il faut la laisser au maximum dans les nappes phréatiques. C'est une eau qui n'a pas vocation à revenir sur le sol. On est en train d'épuiser les nappes phréatiques en France et ça va être un vrai souci pour produire de la nourriture demain. Donc on a aujourd'hui à peu près un stockage de 30 mètres cubes sur le terrain et on va aller vers une récupération de 200 mètres cubes pour être complètement autonome pour les usages alimentaires du terrain. Effectivement, si je continue à tourner vers le nord, je vois une serre bioclimatique en bois qu'on a réalisées pour essayer de ne pas utiliser de métal. Et puis aussi des panneaux solaires. Alors 1 kW crête, c'est pas beaucoup, parce qu'on consomme très peu dans la maison. On a d'abord diminué nos usages au maximum avant de mettre des panneaux solaires. On n'a pas de frigo par exemple, on n'a pas d'aspirateur, ça sert à rien. Et ensuite, si je continue à tourner le regard, j'ai mon champ de patates, mon champ de fèves pour produire de la nourriture qui est calorique, qui va me nourrir et qui va pouvoir être stockée. Et puis j'ai des arbres fruitiers qui ont un peu galéré à cause des gelées tardives. Ça, c'est le problème un peu du changement climatique. On a des hivers doux, des arbres qui débourrent tôt et après des gelées tardives dans le coin. Donc on va apprendre aussi à composer avec ça. Mais on a effectivement beaucoup d'arbres fruitiers, des noyers, des pommiers, des pruniers, des kiwis, de la vigne, des noisetiers. On tient beaucoup aux noyers, aux noisetiers parce que ça produit de la calorie stockable et ça produit de la protéine et on en a besoin pour manger. Je continue un petit peu à tourner, je vois une luzernière. À chaque fois qu'on a de la terre à nu parce que on a déplacé un tas de bois ou parce qu'on a mis une bâche pour faire un peu de terre à nu quelque part où on avait par exemple des chardons qu'on souhaitait pas, on sème des légumineuses pour enrichir la prairie, pour nourrir les animaux et pour nourrir le sol. Donc on installe pas mal de luzernes, pas mal de fèveroles. Et ça permet d'améliorer la prairie. Et tout ça, ça se fait à la main et à la faux. On n'utilise pas de tondeuse à gazon. Si je lève un petit peu les yeux, j'ai la route. Ça, c'est l'interface avec le village. C'est hyper important d'être en lien avec les villageois. On n'a pas envie de s'isoler, on fait beaucoup de choses avec eux. C'est la route qui mène à l'éco-centre, dont on est acteur très 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 fortement. Un éco-centre d'émancipation populaire en milieu naturel, Pôle 21. C'est aussi la route qui mène à l'école. C'est important de se relier à l'école et de faire évoluer cette école pour que nos enfants soient préparés au monde, non pas de demain, mais d'aujourd'hui, c'est-à-dire au savoir-faire qu'il faut retrouver. Je continue un petit peu.
Avant de continuer à tourner, il y a cette notion de préparer le monde, pas de demain, mais d'aujourd'hui. Donc ici, on parlait avant dans la cuisine de ce mot transition. Enfin, toi, tu es vraiment consciente qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer très rapidement. Qu'est-ce que tu observes ?
Alors, c'est vrai que vivre à la campagne, qui est quelque chose de récent pour moi, ça fait 5 ans, mais ça permet vraiment de se rendre compte du changement climatique. Là, aujourd'hui, on est le 2 mai. Mon sol, il est très très sec. Alors que normalement, il y a encore 3-4 ans, c'était un sol très humide, il est très argileux, il retient l'eau. Chaque année, d'habitude, je dépaille pendant 1 à 2 mois mon potager. Cette année, je ne l'ai quasiment pas fait, parce que la terre commençait déjà à craqueler. Je vois aussi les arbres fruitiers qui souffrent, alors que normalement, ici, c'est quand même de l'eau en abondance. Les arbres fruitiers commencent à souffrir de la sécheresse dans la forêt. On voit les chênes qui souffrent, les houppiers sont en train de mourir. Et ça, en plus, comme on parle beaucoup avec les gens du coin, notamment les chasseurs qui connaissent très bien la forêt, eux, ils ont tout de suite vu que la forêt elle commence vraiment à aller mal. D'autres changements que je vois, c'est des vents de plus en plus forts, des pluies de plus en plus concentrées, de plus en plus violentes, mais de plus en plus éparses. Et puis c'est effectivement un hiver très doux, avec donc des ravageurs qui reviennent très très vite sur les arbres fruitiers et au potager. Et des oiseaux, alors ici on les préserve beaucoup, les oiseaux ils sont très très présents, on a beaucoup de chance. Mais je vois qu'ils sont quand même de plus en plus près de la maison, donc je pense qu'ils ont faim. Et qu'ils sentent aussi qu'ici c'est un refuge. Après, c'est peut-être ma vision des choses. Mais je sens ici, je vois des oiseaux maintenant qui reviennent vraiment tous les ans. On a une buse hier qui est venue, on a un pic maintenant qui se rapproche de chez nous. Je crois qu'ils se sentent bien chez nous, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils se sentent bien. Après, tout ça c'est de l'observation, il y a aussi une part de ressenti, mais c'est clair que ça change vite.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Se rapprocher là-bas, dans la petite bûche, le temps que tu reposes ta voix. Donc ta voix, dis-moi juste, c'est quoi? C'est suite à une formation, c'est ça?
Oui, en fait, c'est suite à une formation, un week-end aussi résistance climatique, un mouvement qu'on a lancé pour que les gens incarnent le changement nécessaire pour stabiliser le climat à plus de degrés, ce qui va permettre de continuer à vivre dans un monde en paix. Et donc effectivement, une grippe s'en est suivie et puis je suis à faune.
Donc le changement, ça fait forcément écho avec cette phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors quel est le monde que tu souhaites voir et observer? Et quelle est ta manière d'incarner ce changement?
Moi, le monde où je souhaite vivre, c'est un monde où les gens ont conscience de d'où viennent les ressources qui les font vivre tous les jours. Je trouve que c'est la plus belle prise de conscience qu'on peut avoir dans la vie. C'est savoir comment fonctionne un sol, pourquoi il y a des arbres. Qu'est-ce qui nous apporte de la nourriture? Qu'est-ce qui nous apporte l'eau, l'oxygène? Parce que prendre conscience, c'est pouvoir le respecter et vivre en harmonie avec. C'est quelque chose d'assez récent pour moi, mais je suis tombée vraiment amoureuse du vivant. C'est très galvaudé peut-être comme expression, mais quand je le dis, j'ai des frissons dans le corps, quoi. C'est quelque chose de très fort. Et à nouveau, moi je suis très rationaliste à la base, je suis pas du tout perchée. Mais je crois que si l'humain peut retrouver cette dimension, c'est à la fois une, moi, ce que j'ai vécu comme une libération énorme. Et donc je souhaite aux humains de se libérer. Parce qu'après, les choix que je fais dans ma vie, comme ils dépendent de ça, ils sont beaucoup plus simples, ils sont beaucoup plus sobres, ils sont beaucoup plus dans la relation humaine et dans la relation vivant. Et le vivant est quand même très très généreux et ne ment pas. Et j'aime beaucoup la sincérité aussi.
Cette notion de choix, de sobriété, est-ce que tu peux m'en parler ?
Oui, chez moi c'est assez naturel en fait, la sobriété. Je ne le prends pas du tout comme une contrainte. C'est un peu quelque chose de logique en fait. Il y a des ressources, ben, je prends ma part, pas plus. Et surtout j'essaie de restituer un maximum. Donc la sobriété, c'est à chaque fois que je fais un geste ou une consommation, je sais quel est l'impact sur le vivant et sur les autres humains. Et je fais en sorte que ça nourrisse les autres vivants et non pas leur porte préjudice. Or, un vêtement, ça tue des enfants, on le sait. Nos téléphones portables, ça tue des enfants dans les mines de la République démocratique du Congo. Une voiture, ça émet des gaz à effet de serre et donc ça tue aussi du monde. Ça paraît peut-être, les gens disent « ouais, faut pas se culpabiliser ». Pour moi, c'est pas une question culpabiliser ou pas, c'est être conscient, responsable, c'est la seule manière d'être humain. Et aujourd'hui, on a le choix de faire différemment, on a le choix de prendre le vélo, de marcher à pied. On peut faire une grande distance à pied, en fait, il n'y a pas de souci. Et c'est super agréable, et le corps va mieux. Et on n'a pas besoin d'antidépresseurs aussi, parce que ça détend le corps. Donc en fait, le problème et la solution, c'est vraiment aussi une phrase de Parma qui m'a apporté beaucoup, et que j'incarne tous les jours, c'est que ce que je peux voir comme un problème à la base, je me rends compte qu'en fait, je peux l'ouvrir vers une solution pour aller moi mieux, et les gens aussi autour de moi, et le non-vivant, enfin le vivant et le vivant autre qu'humain, puissent aussi aller mieux. Et tout peut se transformer en solution en fait, il suffit juste de décider de le faire. Et la sobriété, c'est le moyen d'y arriver.
Tu disais que dans votre quotidien ou dans les formations que vous organisez, vous utilisez ce discours de sincérité.
Oui, tout à fait, et c'est pas très agréable pour les gens de l'entendre. Des fois, d'ailleurs ça les chamboule tellement qu'ils nous en veulent un petit peu, mais on dit pas « faut prendre moins la voiture, moins l'avion, trier ses déchets, faire un potager ». Non, on dit « il faut faire 2000 km de voiture par an maximum, il faut arrêter l'avion ». Il faut consommer maximum 1000 kWh dans ta maison à 4. Il faut produire des calories et non pas de la salade. Voilà, il faut stocker de l'eau et non pas faire un puits et pomper dans ta nappe phréatique. Et c'est pas nous qui imposons ça, en fait, c'est la nature et l'environnement aujourd'hui qui nous l'impose. C'est là où je dis qu'on a un discours de sincérité, c'est qu'on parle de l'écologie avec ses ordres de grandeur. Et c'est marrant parce qu'on faisait un week-end de formation résistance climatique et j'avais un agriculteur que j'aime beaucoup du coin qui est venu. Et qui disait « moi j'aime pas les chiffres, mais vous me réconciliez avec eux. » Parce que c'est la première fois que je vois dans l'écologie des vrais ordres de grandeur abordés, et qui permettent aussi à ceux qui vont vraiment vouloir incarner l'écologie au quotidien de le faire, parce que vous avez fait le travail de donner les ordres de grandeur et les chiffres. Et du coup ça fait aussi plutôt plaisir d'entendre ça. Après bon, j'exagère quand je dis que des gens sont un peu énervés des fois qu'on leur dise la vérité, en général ils sont surtout très reconnaissants et très apaisés aussi, parce que savoir ça apaise.
Cette notion de la preuve par l'exemple forcément impacte celui qui va se retrouver en vos présences, en ta présence, en la présence de ce lieu, où forcément il y a ce discours de cohérence qui est appliqué autour de nous et qui nous met face à notre propre réalité, nos propres croyances. Et on se rend compte à ce moment-là que souvent l'homme est paresseux, hein, changé. C'est compliqué de se changer soi, parce qu'on a tous des rêves qui sont souvent dans une incohérence totale par rapport aux réalités des lois du vivant, mais qui font quand même partie des schémas mentaux qu'on a construits.
Peut-être une part de, je sais pas, c'est de paresse ou d'habitude au confort. Ou je crois aussi ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on se compare aux autres et on a du mal à se dire qu'on fait des choix volontaires de sobriété alors que les autres le font pas. Moi, ça me gêne pas. Je sais pas, j'ai une genre de moralité très ancrée en moi, et puis surtout, ça me permet de me sentir bien, d'être cohérente. Mais c'est vrai que c'est pas une vie, c'est une vie physique en fait, c'est une vie où je suis beaucoup dehors. Voilà, ce matin j'ai allumé un feu, sinon on aurait froid. Je sais pas, il va falloir que j'aille m'occuper du potager, sinon j'aurais pas mangé ce midi. Ouais, on fait des haies en bois par exemple pour pas utiliser de grillage, c'est hyper long. Et en même temps ça permet de tresser avec du vivant, de comprendre comment fonctionne un végétal. Et tout ce que je découvre, je peux pas le savoir à l'avance. Je sais ce à quoi je renonce et c'est pour ça que c'est dur, c'est une question de deuil en fait. Par contre, je ne sais pas ce que je découvre, mais en avançant, je vois ce que je découvre et ce qui s'ouvre à moi, et je vois le bonheur que ça m'apporte. Mais je dis beaucoup aux gens, il faut accepter de faire des deuils, c'est la seule manière d'avancer dans la vie. Et clairement, dans ce chemin de transition, on a beaucoup de deuils à faire. Et c'est important de les faire en collectif, et aussi de savoir ce qui est fondamental pour nous, pour pour s'assurer que là-dessus, on n'aura pas de deuil à faire. Par exemple, si c'est fondamental d'habiter près de chez ses parents, ou près de chez ses amis, ou près de la montagne, ou voilà, je sais pas, où on a besoin de faire du vélo tous les jours, il faut pas faire un deuil là-dessus, il faut faire un deuil sur le reste, mais il faut préserver ce qui est fondamental et qui fait sens pour nous.
Dans cette notion du changement, de transition, du nouveau monde, vous êtes un peu des pionniers finalement, hein, qui expérimentaient des choses. Il n'y a pas forcément de chemin à suivre, c'est vraiment vous qui tracez le chemin.
Alors, on a quand même de la chance. Moi, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous aident. Il y a déjà énormément de livres qui nous aident à trouver des stratégies pour planter les bonnes plantes nourricières. Il y a beaucoup de lieux, en fait. Il y a eu un grand mouvement écologiste dans les années 60-70, avec des super lieux qui existent encore. Et des agriculteurs pleins de savoir-faire, ou des vieux papiers pleins de savoir-faire et qui sont très généreux dans leur transmission. Donc je dirais pas qu'on est pionniers parce que ça serait pas les respecter. Par contre, c'est sûr que ça demande forcément un gros investissement au départ. Par exemple, installer une cuva aujourd'hui, il y a peu de professionnels qui peuvent vraiment nous aider. Pareil, faire une installation de panneaux solaires en autonomie, il y a très peu de professionnels qui savent le faire. Rénover sa maison en paille, on a fait nous-mêmes la conception parce qu'on trouvait pas de bons artisans. Je dis pas qu'ils existent, mais ils sont pas très très nombreux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de savoir-faire qu'il nous faut nous aussi inventer ou réinventer. Mais là par exemple, je regarde la cabane à oies que j'ai fait avec des matériaux 100% du terrain, notamment des bardeaux faits en robinier. Bah, les bardeaux, ça date de plusieurs siècles. Et il y a des vidéos très bien faites et on a pu s'en inspirer. Et il y a des papiers aussi près d'ici qui nous apprennent à faire des bardeaux. Donc il y a quand même une vraie générosité. Et quand les anciens peuvent partager leur savoir, ils sont très reconnaissants qu'on reconnaisse aussi leur savoir. Et je pense que c'est important.
Il y a le mot permaculteur qui est sorti au début de cette émission. Donc permaculture, moi je pense au bouquin « Révolution d'un brin de paille » de Masanobu Fukuoka, donc un japonais qui vit sur l'île de Shikoku, qui a été, je crois, après plus ou moins repris ou traduit ou interprété par Bill Mollison en Australie. Donc ce terme de permaculture aujourd'hui est de plus en plus employé, était complètement inconnu ou méconnu encore une quinzaine ou une dizaine d'années. Aujourd'hui, on le voit partout. Comment tu définirais, toi, la permaculture? Qu'est-ce que c'est? Quelle est ta définition de la permaculture?
Alors, je vais donner ma définition, mais pour moi, c'est pas ma définition, c'est la définition de la permaculture. J'entends beaucoup de gens qui disent « ouais, chacun sa définition ». Ben non, la permaculture, c'est un vrai projet de société où en fait, on va respecter l'humain, respecter la terre et partager équitablement. Ça, c'est l'éthique de la perma et ça veut tout dire. Si on appliquait chacun ça dans sa vie au quotidien, tout est transformé dans nos modes de vie. On ne ferait pas les mêmes boulots, on ne ferait pas les mêmes modes de déplacement, on ne s'alimenterait pas pareil. Donc il y a un vrai projet permacole qui est un peu un projet universel de remettre l'humain à sa place dans la chaîne du vivant et qu'il reprenne sa place à la fois de lui-même fertilisateur, voilà. Ce qui sort de notre corps, ça va fertiliser la terre. Et de jouer son rôle dans le merveilleux cycle du vivant. Nous aussi, on sème des graines un peu comme les oiseaux. Nous aussi, on taille les arbres un peu comme les chevreuils. Nous aussi, on entretient des bouts de clairière un peu comme, là aussi, des renards, des rongeurs, des chevreuils. Nous aussi, on observe la beauté du monde un peu comme les oiseaux. Mais on est avant tout des êtres ancrés dans le vivant. On boit de l'eau, on ne la pollue pas. Il n'y a pas d'animaux ou d'êtres vivants sur Terre qui polluent l'eau. Donc voilà, la permaculture, c'est retrouver le bon sens de ce que c'est être vivant, tout simplement.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
J'entends aussi dans ce que tu dis cette notion de bienveillance, de bonification et d'action positive pour soi, mais surtout pour l'environnement proche ou l'environnement lointain.
Moi, ce qui m'anime le plus au quotidien dans ma sobriété, s'il faut l'appeler comme ça, mais moi je... Si certains y voient une connotation négative, il faut choisir un autre mot, peut-être bien-être. Un truc vraiment qui m'anime, c'est de me dire que mon mode de vie n'est pas en train de sacrifier des humains, soit dans d'autres villes et villages, soit dans d'autres pays. Je ne suis pas en train de préempter de la terre agricole pour acheter de la pâte au chocolat avec de l'huile de palme ou des terres rares pour acheter un nouvel ordinateur. Mon ordinateur, il a 10 ans. Je ne suis pas en train d'exploiter des agriculteurs en payant à très bas coût leur nourriture. Je la rachète au prix qu'ils me la vendent, je la discute jamais. Je dis jamais qu'elle est chère, j'achète qu'aux agriculteurs bio du coin, parce que je sais que c'est un boulot énorme et qu'ils ne sont pas très très bien payés. Voilà, c'est cette satisfaction en fait de respecter le vivant, notamment les humains. Les humains, ils méritent vraiment le respect. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains extrêmement généreux et incroyables sur cette planète qui méritent notre respect.
Tu parlais aussi de cette notion d'autonomie, donc en tout cas essayer d'être le plus autonome possible tout en étant relié à tout ce qui se passe autour de soi, ce qui est très important parce qu'on ne peut pas vivre d'une manière en autarcie. On le sait, on n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant, on est tous interdépendants, on a besoin les uns des autres. Il y a cette complémentarité qui est juste essentielle pour pouvoir avancer ensemble. Mais dans les modes de vie choisis, que tu vis dans cette réalité dans laquelle j'arrive aujourd'hui, dans ta ferme en permaculture, il y a quand même encore cette notion de marginalité. Vous êtes peu nombreux. Comment est-ce que tu vis ça, tout en sachant que pour toi, ta réalité que tu te construis dans le quotidien est bonne, et pour toi, et pour l'environnement, et pour la planète, et de voir qu'autour de toi, la majorité des gens ne sont pas du tout dans cette forme de conscience ou dans ces choix de vie, ce qui impacte dangereusement l'équilibre des écosystèmes.
Il y a forcément une part de colère, parce qu'en fait, moi, ma part, elle suffira pas si les autres s'y mettent pas, et je souffrirai pareil qu'eux, parce qu'on s'y sera pas mis collectivement. Donc il y a quand même de la colère envers certains humains, ça c'est clair. Et puis l'envie d'ouvrir ce lieu de plus en plus, parce que je crois que c'est beaucoup la relation humaine qui peut nous faire évoluer, et c'est beaucoup le faire, et non pas le lire, ou l'entendre, ou les conférences, qui peuvent faire bouger les gens. Donc je reste très motivée, mais j'ai des moments de grosse fatigue, parce que si on est de plus en plus sollicité, en fait, les gens, je pense, commencent à se rendre compte qu'on a des solutions techniques, théoriques, que voilà, ça fait quand même 10 ans, 15 ans pour GDS qu'on bosse sur le sujet, donc on commence à avoir des idées claires sur 2-3 trucs. Et du coup, on est aussi sur-sollicité. Donc c'est trouver un équilibre entre continuer à bien faire les choses chez nous, répondre aux gens, et puis transmettre pour que les gens se sentent légitimes pour eux aussi transmettre. Après, je garde un espoir au fond de moi, mais je suis quand même lucide. On va galérer dans les prochaines années. Tout pas fait dans la bonne direction. Ça permettra de galérer un peu moins, de sauver des vies, de préserver des lopins de terre, du bien-être, de la joie, et ça vaut le coup.
Quand tu dis on va galérer, pour toi, quelles peuvent être les galères auxquelles on va devoir faire face ?
Clairement, la sécheresse, les canicules, ça affecte la production de nourriture. Ça affecte, y a pas mal de départements en restriction d'eau déjà aujourd'hui. Et il y a eu même des villes entières l'année dernière en France où ils n'ont pas pu avoir de l'eau au robinet pendant plusieurs semaines. Donc ça nous affecte déjà au quotidien. Et la canicule, en fait, le corps humain, il souffre, tout simplement. De la canicule, on ne peut pas sortir. Quand il fait 50 degrés, ça assèche, ça crée des maladies. Ça, c'est les impacts qu'on voit déjà aujourd'hui. Les réfugiés climatiques, c'est un impact. Il va falloir accueillir des millions de gens, c'est notre responsabilité. Parce que la France, même si on va avoir un changement climatique important, il y a des pays qui sont beaucoup, beaucoup plus impactés que nous, en fait, qui vont avoir des problèmes climatiques bien plus énormes que nous. Donc c'est notre responsabilité de les accueillir. Il va y avoir des baisses de rendement agricole, ça c'est évident. Il va y avoir des pluies qui vont éroder les terres, qui vont abîmer les cultures, des grêles qui vont tuer des arbres, la sécheresse qui va tuer des forêts. Il va y avoir des incendies. Je peux continuer, mais j'espère qu'on va éviter les conflits armés, les pillages. Mais pour ça, il faut créer des liens de solidarité dès maintenant, et puis surtout qu'on soit assez nombreux à avoir des graines à la maison nourricière, des arbres fruitiers, à savoir comment on greffe, à savoir comment on s'occupe d'un arbre les premières années pour qu'il puisse survivre même s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Il faut qu'on ait des oyas, des genres de petites poteries qu'on met au pied des arbres pour qu'ils puissent s'en sortir avec un petit peu d'eau. Enfin voilà, il y a tous ces trucs qu'il faut qu'on ait parce que... Mais la galère, ça va être ça, en fait, ça va être un manque d'eau, un manque de nourriture et un manque de paix sociale.
Bon, on va s'éloigner de cette géographie du cauchemar pour revenir dans des choses un peu plus concrètes. On avait commencé un tour de terrain, tu m'as montré différentes choses, hein, donc une serre que vous essayez... en fait, tout est plus ou moins auto-construit ici. On est sur la partie nord du terrain, la maison qui se chauffe au bois, on va peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs. Continuer la balade dans ce jardin, comment est-ce qu'on l'appelle un jardin ? Permaculture, ça a un nom ?
Moi je dis un lieu de vie inspiré de la permaculture. La permaculture est un projet tellement ambitieux que je me garderais bien de dire qu'on est arrivé à la permaculture, mais on s'en inspire.
Alors faisons le tour de ce lieu, de ce jardin inspiré par cette démarche dynamique de la permaculture. Je ferme la porte derrière moi ou ça va ?
Les toilettes sèches évidemment. Ça nous permet après de fertiliser les arbres fruitiers. Et à côté, les clôtures pour les moutons faites en bois. Donc on a pris le bois de la forêt, on a gardé les arbres vivants, on les a trognés, et entre les arbres vivants, on a tressé du bois mort. Petit à petit, le bois mort va se décomposer, le bois vivant va repousser dans la haie, et cette haie va s'auto-entretenir en fait. Ça s'appelle une haie plessée. Et c'est assez magique, et c'est ce que les paysans faisaient avant.
Quelque chose d'intéressant aussi, donc on parle de jardin, tu m'as montré des fèves, des légumineuses, tu parlais de céréales, et tu as amené cette notion de l'animalité aussi. Donc c'est aussi important, je trouve, aujourd'hui, enfin de plus en plus j'observe hein, ce lien entre le végétal et l'animal. Donc pour vous, c'est aussi important d'y amener une présence animale. Pourquoi ?
En fait, ça dépend du terrain. Chez nous, on a une clairière très ombragée, donc on ne peut pas cultiver des céréales au fond de la clairière. Par contre, il nous faut préserver cette clairière pour garder du soleil sur nos cultures qui sont plus proches de la maison. Et donc les animaux, c'est un moyen de gérer la clairière sans tondeuse à gazon et en même temps en produisant de la nourriture. Faire un peu d'élevage à l'herbe, c'est complètement cohérent. Ça permet de fertiliser le terrain et en même temps de produire un petit peu de viande. Donc on a 2 moutons par an, on les tue nous-mêmes, on tanne les peaux nous-mêmes. C'est notre seule consommation de viande, on en offre la moitié, c'est le partage équitable. Et on met l'autre moitié en bocaux avec un rocket stove, donc avec des chutes de bois, sans gaz. Et c'est la viande qu'on mange toute l'année, c'est une fois par mois on mange de la viande. Et voilà, ça évite d'utiliser la tondeuse à gazon et de valoriser une prairie qui serait inutilisable pour faire des céréales parce que pas assez ensoleillée.
Et aussi cet adage qui dit que la stabilité d'un écosystème se crée grâce à la diversité.
C'est essentiel parce que, par exemple, si je mettais que des fèves pour me nourrir et que j'ai une maladie sur les fèves, bah, j'aurais rien à manger pendant l'hiver. Donc là, pour faire des calories, j'ai des haricots, j'ai des fèves, j'ai des lentilles, j'ai des topinambours, j'ai des patates, j'ai des noix, j'ai des noisettes, j'ai des fruits, j'ai du soja, j'ai du millet, j'ai du sorgho. Voilà, ça c'est ce qui va me nourrir en termes de calories. La fertilité de mon jardin, je la fais comme sur la prairie, avec de la luzerne, des poquets de luzerne que je fauche régulièrement. Et puis j'ai introduit des arbres fourragés sur le terrain pour les animaux, parce qu'avec les sécheresses de plus en plus fortes, les animaux manquent d'herbes dès septembre et les arbres fourragés peuvent prendre le relais. Donc on a mis des frênes, des robiniers. On a aussi intégré des saules pour le fourrage, mais aussi pour faire des liens pour le potager, parce que pour plus utiliser de ficelles et pour faire aussi nos paniers. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais le chant des oiseaux permet de dire qu'on est bien.
Tu disais à un moment donné, j'ai bien aimé, tu disais « je ne suis pas une perchée ». Et tu as la tête et les pieds bien ancrés, bien dans tes bottes, bien enracinés dans cette réalité du vivant et de la terre et du sol. Et aujourd'hui, pour en revenir à ce qui se passe en France, j'observe ce phénomène de néo-ruraux, de jeunes qui quittent les villes pour aller s'installer à la campagne, des étoiles plein les yeux, des rêves plein la tête. Mais c'est pas facile quand même d'incarner cette réalité dans du concret. Toi, tu as fait ce chemin-là. Tu as quitté la ville, tu disais que tu étais, je crois, parisienne ou strasbourgeoise, je sais plus, pour venir il y a 5 ans t'installer ici. Est-ce que tu peux me parler ou donner quelques conseils à tous ceux qui sont conscients qu'aujourd'hui il faut changer radicalement nos modes de vie et qui vont vers ces modes de vie-là, mais peut-être dire que c'est pas aussi évident qu'on peut se l'imaginer?
C'est physique. Ça demande de vivre au rythme des saisons et du climat, d'être souvent dehors, de laisser tomber les habits propres, souvent. Ça demande de redécouvrir beaucoup de savoir-faire, donc de faire beaucoup d'erreurs. Moi, je fais énormément d'erreurs. Après, moi, ce qui m'a permis d'y arriver, c'est... On est parti dans un projet à deux avec Gildas. En plus, lui, il est super bricoleur, donc ça aide quand même vraiment. Et d'être à deux quand même, c'est vraiment super que ce soit un projet de couple. Je pense que c'est difficile d'embarquer sans son conjoint ou sa conjointe, parce que dans les moments un peu de découragement, c'est bien que l'autre pousse. Il faut aussi faire les choses pas à pas. On a 2 à 5 ans pour changer. C'est pas beaucoup, mais en même temps, ça permet quand même de faire les choses progressivement. Faut pas attendre, mais on n'est pas obligé de tout faire en une semaine. De toute façon, c'est pas possible. Donc voilà, y aller pas à pas, demander de l'aide. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore passé le cap, mais qui sont très contents de venir une semaine aider un chantier participatif. Après, il faut être des super bons organisateurs. Faut aimer bosser et en même temps, je dis sur les aspects difficiles, mais moi c'est avant tout beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, de joie et de découverte de choses d'une part de moi-même en fait que je ne connaissais pas et que j'aime beaucoup.
Mais le moteur derrière tout ça, c'est l'amour.
Ça c'est clair, ouais, c'est l'amour du vivant et l'amour de sa petite famille, ça c'est vrai.
Donc on l'aura compris, le lien concret à l'autre est très important, cette notion de complémentarité, de solidarité, de faire ensemble. On a tous dans nos chemins, dans nos cheminements, des personnes qu'on a rencontrées qui ont été inspirantes, des bouquins qu'on a lus qui nous ont permis d'avancer, ou des citations qu'on peut se répéter comme un mantra pour garder le cap. Donc j'aimerais que tu termines avec ça, quelque chose qui toi t'inspire, quelqu'un qui t'a inspiré, une citation, une phrase ou quelque chose que tu as envie de partager parce que pour toi, ça a du sens ou ça a eu du sens.
Une citation que j'aime bien, c'est une citation d'Ama qui dit « Ressens la peur et fais-le quand même ». Des personnes qui m'ont inspiré, c'est toutes les personnes qui ont des lieux comme ça, qui vivent en harmonie avec la nature, qui accueillent du monde et qui le font en toute dignité et humilité et qui sont un peu mes guides dans la vie.
Merci Claire.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.